Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Lucas Vinoy est avec nous. Salut Lucas.
Salut Louis, bonjour Jean-Luc et salut à tous.
Salut Lucas.
Reporter RMC Sport, tu rentres tout juste de Barcelone où tu as passé la semaine. Les essais, justement Jean-Luc, première question, qu'est-ce que tu en retiens de ces derniers essais d'avant-saison à Barcelone ?
Comme je te l'ai fait à tous les coups, Louis, nous avons 2 heures, donc j'ai bien le temps de m'étendre. Non, écoute, je vais me centrer sur le principal. Effectivement, on sait que c'est toujours un marché de dupes, hein, ces essais, dans la mesure où, évidemment, les écuries ne dévoilent pas la totalité de leur potentiel pour plusieurs raisons. La première, c'est de ne pas dévoiler une innovation technique ou technologique, surtout compte tenu du nouveau règlement cette année, avec, on le sait, les évolutions notamment sur l'aileron avant, sur l'aileron arrière, sur les bargeboards. Et puis, il y a toujours quelqu'un qui a mieux travaillé, notamment pour exploiter les pneumatiques Pirelli. Alors, ma première impression, bah, tout le monde le dit, donc je vais être d'accord, évidemment, c'est que Ferrari va vite, Ferrari est constant, même s'il y a eu quelques petits problèmes techniques, mais Mercedes, qu'on a un petit peu, ou disons sur lequel on s'est posé des questions à l'issue de la première séance d'essai de 4 jours, hein, on s'en souvient, puisqu'ils étaient un petit peu derrière, et bien Mercedes est revenu, et Hamilton et Bottas terminent par 2 temps à 3 millièmes, hein, pour Hamilton, c'est vraiment rien du tout, et 340 millièmes pour Bottas, ça veut dire que Mercedes est là, alors derrière, évidemment, c'est un peu la confusion pour savoir qui va surnager, et même Red Bull d'ailleurs, qu'on trouve très loin, mais qui n'a pas utilisé la bonne qualité de pneumatique.
Lucas, faisons un point classement sur ces essais de Barcelone sur la dernière semaine. Qui a été le plus performant ?
Alors Jean-Luc le disait, Vettel a été le plus rapide, une 16-221 avec le composé pneumatique le plus tendre, une 16-224, 3 millièmes derrière seulement avec Lewis Hamilton et sa Mercedes. Leclerc ensuite, on le retrouve derrière, une 16-231, donc c'est toujours extrêmement serré. Et un petit peu plus loin, de dixième et demi derrière, Bottas avec sa Mercedes, une 16-561. Donc on se rend compte ici en tout cas qu'entre Ferrari et Mercedes c'est extrêmement serré. Maintenant, quelle quantité d'essence était embarquée, on ne sait pas. À quel point le régime moteur était élevé, ça on ne le sait pas non plus. Mais les bruits de couloir disent que la Ferrari est quand même plus performante que la Mercedes, en tout cas lors de ses essais à Barcelone.
Effectivement, on n'a pas toutes les données, il y a encore une part de mystère qui enveloppe ces résultats. Pour autant, Jean-Luc, et on va entendre Sébastien Vettel dans quelques instants, Ferrari semble très bien en place, comme on dit, avant le début de la saison.
Écoute, il avait vraiment la banane, on s'en souvient, la semaine dernière, après la première salve d'essai, il avait été le plus rapide. Ensuite, il faut quand même signaler cette sortie de piste pour laquelle il n'est absolument pas responsable, avec, semble-t-il, donc la jante avant gauche, le rim, comme on dit en anglais, qui aurait lâché. Donc, ça aurait pu avoir des conséquences très importantes, puisque la machine a été bien abîmée. Heureusement, Vettel, lui, n'était pas blessé. On a vu également la Ferrari s'arrêter sur le circuit, parfois un petit problème électrique, je crois, un petit problème d'échappement également. Bref, dans l'ensemble, c'est extrêmement positif. On a couvert, d'ailleurs c'est un peu la norme pour les équipes les plus performantes, pratiquement 1000 tours du tracé de Barcelone que l'on connaît par cœur. Donc oui, on peut dire que Ferrari est très bien en place. D'autant, je vais oser le dire, qu'évidemment, et on va y venir, on va l'écouter, Charles Leclerc évidemment fait un boulot formidable. Même si Vettel est serein pour le moment, je pense qu'il va être poussé dans ses derniers retranchements.
On va y venir. Mais d'abord, Sébastien Vettel, qui s'est réjoui et qui ne s'est pas caché, qui s'est réjoui après le premier jour dans la voiture. Écoutez, les mots sont forts, hein, d'un quadruple champion du monde, Sébastien Vettel.
J'ai dit que c'était le meilleur premier jour que nous n'ayons jamais eu. Je pense globalement que la voiture est vraiment performante. Le feeling est bon derrière le volant. Nous avons pu tester beaucoup de choses depuis le premier jour de test. Nous avons même pu faire tout ce que nous voulions malgré quelques problèmes techniques parfois. Donc oui, je suis vraiment positif quant à mon ressenti dans la voiture.
C'est incroyable, Jean-Luc, quand même, d'entendre un pilote aussi expérimenté, aussi rompu à ses séances d'essai, dire c'est le meilleur premier jour que nous n'ayons jamais eu.
Écoute, c'est génial parce qu'effectivement, ça rappelle des périodes un peu éloignées maintenant. Il faudrait quasiment remonter à l'ère Schumacher, c'est vous dire, c'est-à-dire le début des années 2000, pour voir Ferrari aussi euphorique. Maintenant, Mattia Binotto, le nouveau team principal qui a remplacé Harry Vabene, et on s'en souvient, s'est gardé lui de tout optimisme BA, d'autant qu'avec 3 millièmes d'écart en toute fin de ces 4 jours d'essai, on sait bien que Ferrari n'est pas loin. Et encore, et je sais qu'on va y venir aussi évidemment, Hamilton semble se plaindre des ce qui est incroyable. Je rappelle toujours, tu sais, j'aime bien cette formule, il n'y a que effectivement quelques millièmes maintenant dans les moteurs, allez on va dire centièmes pour être gentil, il y a quelques dixièmes dans l'aéro, mais il y a des secondes pleines dans les pneumatiques pour ceux qui savent les exploiter. Alors peut-être que effectivement chez Ferrari on exploite un peu mieux les nouveaux pneumatiques Pirelli.
Alors on le sait, Sébastien Vettel, il est cette saison flanqué d'un nouveau coéquipier, le jeune Charles Leclerc, transfuge de chez Sauber. Il va disputer sa deuxième saison en Formule 1 seulement. Comment tu l'as senti, Lucas, à Barcelone cette semaine, toi qui l'as vu tous les jours, endosser pour la première fois cette tunique Ferrari et marcher dans le paddock avec, symboliquement c'est fort.
Je pense qu'il n'est pas fait du même métal que nous, Charles Leclerc. Il est un peu meilleur derrière le volant, c'est vrai,
à peine,
un peu,
à peine.
Quoique mais non, mais en fait, il est hermétique à la pression en fait, c'est ça qui est complètement dingue, à son âge, il est quand même extrêmement jeune, c'est sa deuxième saison seulement en Formule 1, il est chez Ferrari, c'est le mythe absolu en Formule 1, c'est la seule écurie qui a participé et qui a disputé l'ensemble des championnats du monde. Il y a une pression qui est terrible, tout le monde ne parle que de Ferrari, quand ça va bien, quand ça va pas bien, et lui il est au milieu de tout ça et ça ne lui pose absolument aucun problème. Il est confiant, compétitif, il échange avec tout le monde, il rigole, et il n'a pas changé d'un iota par rapport à l'année dernière.
Est-ce que lui personnellement, Lucas, il était au centre de toutes les attentions à Barcelone cette semaine? Est-ce que les photographes, les journalistes se l'arrachaient pour des interviews? Est-ce que tu as observé un changement de statut?
Bien sûr, et le changement de statut il est évident, même si déjà l'année dernière chez Sauber il y avait énormément de journalistes qui allaient voir Charles Leclerc. Tout le monde sait qu'il a un talent complètement dingue, que c'est un champion du monde en puissance à l'instar de Max Verstappen. Oui, les projecteurs étaient braqués sur lui, sur Sébastien Vettel, mais surtout sur leur entente. Comment ils s'entendent, comment ils discutent, comment ils essayent d'améliorer cette monoplace. Et pour l'instant, en tout cas, bon, c'est normal, la saison n'a pas commencé, mais l'entente est au beau fixe.
Tu l'as dit, ce qui est impressionnant chez Charles Leclerc, c'est son calme, son sang-froid. Avant, on disait tranquille comme Baptiste, bientôt, on dira tranquille comme Charles. Écoutez-le.
Honnêtement, les émotions quand je regarde de l'extérieur et tout ça sont énormes. Par contre, quand je rentre dans la voiture, il y a plus aucune émotion et je me concentre à 200% sur ce que j'ai à faire derrière le volant et je pense plus à la voiture que je conduis. Je pense seulement au boulot que j'ai à faire dans la voiture. Donc voilà, après les sensations restent les mêmes. On essaie juste de faire le meilleur job possible à chaque virage, mais bon, quand je sors et que je vois qu'il y a quand même un peu plus de rouge sur la voiture, ça me fait plaisir.
Jean-Luc, c'est une maturité quand même assez épatante pour un tout jeune homme.
C'est un type génial, hein, 21 ans. Bon, il est d'un métal particulier, comme l'évoquait Lucas. On rappelle son parcours quand même pour ceux qui nous rejoindraient. J'espère qu'ils étaient là avec nous avant quand même. Mais sur RMC et dans Motors, c'est malheureusement un garçon qui a été éprouvé par le sort, puisqu'on le sait, il a perdu son ami, son grand frère, on peut dire Jules Bianchi, dans les circonstances que l'on connaît. Lui qui l'a beaucoup aidé à ses débuts déjà en karting, et ils ont été presque élevés ensemble, puisque leur papa, le père Hervé, donc Leclerc, était très ami avec le papa de Jules, donc ils se connaissent très très bien, et cet accident l'avait profondément choqué alors que lui était encore un jeune pilote. Et puis après, dans cette saison de Formule 2, on l'a évoqué, où il se battait pour le titre, pareil, il perd son papa avant l'épreuve en Hongrie, il remporte la manche moins de 48 heures plus tard, donc ça veut dire qu'il a un mental vraiment en acier. C'est quelqu'un qui, on l'a vu, reste enthousiaste, hein, parce que évidemment, en plus, il est monégasque, donc on sait, entre Monaco et l'Italie, il y a des liens très très étroits, il y a une proximité absolue. Moi, je pense que ça peut devenir la coqueluche, et je crois qu'il a la tête bien faite et bien pleine pour résister au déchaînement médiatique et au déchaînement des tifosi, s'il arrive, et je l'espère.
Et tu penses qu'il est déjà en mesure d'aller chercher Sébastien Vettel, même si la direction de la Scuderia a quand même énoncé très clairement que Vettel serait le numéro 1?
Oui, je pense totalement qu'il est en mesure d'aller le chercher. Si tu te souviens des essais qui s'étaient déroulés après le Grand Prix de Hongrie l'an dernier, il était déjà en rouge et ça avait été l'homme le plus rapide de ces journées. Donc oui, il est parfaitement capable d'y aller, mais il est très modeste, il ne le dit pas. Pour le moment, il ne commet pas d'erreur, c'est ça qui est très important. Je pense qu'on va voir le vrai Charles Leclerc. Allez, laissons-lui 3-4 Grands Prix, mais moi je pense qu'il va bousculer Vettel. Oui, je suis pressé.
Lucas, Ferrari en tête, Mercedes un petit peu derrière. On va écouter Lewis Hamilton dans un instant, qui est assez alarmiste. Comment tu as senti les dirigeants de Mercedes, les pilotes aussi. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude, comme un renversement de tendance par rapport à l'ultra-domination de la firme allemande ces dernières saisons?
Un petit peu friable. Je l'ai senti un petit peu fragile, presque inquiet. Des signes qui ne trompent pas. Il y a un aileron avant qui est arrivé en catastrophe jeudi soir pour le tester vendredi parce qu'on n'était pas du tout satisfait de l'appui que l'ancien générait. Toto Wolff qui a annulé son point presse. Toto Wolff victime d'une intoxication alimentaire. Alors peut-être que c'était un poisson Ferrari qui était dans son assiette. Mais toutes ces petites choses accumulées, un moteur changé sur la monoplace de Bottas, mais voilà, tous ces éléments qui n'existaient pas en fait avant chez Mercedes, on sentait que c'était toujours tout en contrôle et on comprend d'ailleurs pourquoi ils sont perturbés. Ils ont gagné 74 des 100 dernières courses disputées en Formule 1. Donc forcément, quand vous êtes poussé dans vos retranchements, quand vous en avez pas l'habitude, vous mettez un petit peu de temps à trouver les clés de sortie.
Question au champion du monde en titre, Lewis Hamilton. Comment estime-t-il l'écart entre Ferrari et sa monoplace?
Je ne suis pas vraiment sûr, mais je pense qu'il y a une demi-seconde d'écart, quelque chose comme ça. Et notre monoplace a le potentiel pour progresser, c'est là-dessus d'ailleurs que nous travaillons. Je sais que je suis dans une équipe capable de faire du bon travail, plus unie qu'elle ne l'a jamais été, mais cette bataille va être la plus dure par rapport à toutes celles que nous avons livrées auparavant. C'est terriblement excitant pour les journalistes, les observateurs et les fans. Le rythme de Ferrari est vraiment excellent. Le challenge sera plus difficile que jamais.
Jean-Luc, à ton avis, c'est une inquiétude sincère ou un élément de langage pour titiller un petit peu la concurrence?
Ah, il est bon cet Hamilton, il est bon dans tous les compartiments du jeu, tu me vois venir. Bien sûr, Lucas le soulignait, c'est peut-être moins facile, on va oser dire, pour Mercedes. Et puis tu sais, toute période de domination absolue est faite pour se terminer à un moment, c'est la vie, c'est comme ça. Donc on comprend bien que l'écrasante domination de Mercedes depuis la mise en place du nouveau règlement en 2014, on est plus proche de la fin que du début. Là j'enfonce des portes ouvertes, c'est une évidence. Alors qu'il y ait moins de marge, voire plus de marge du tout, c'est très possible. Maintenant, Lewis l'évoquait il y a un instant, on ne sait pas ce qu'on appelle le fameux sandbagging en langage de pilote de F1, c'est-à-dire est-ce qu'on avait du carburant chez Ferrari, est-ce que les performances qu'on a signées c'était quand même avec quelques dizaines de litres de carburant. Par parenthèse, on sait que cette année on peut en emporter un peu plus en course, donc ça peut aider peut-être le moteur Ferrari qui était peut-être un peu moins performant que le Mercedes en termes d'économie d'énergie et d'utilisation du carburant, c'est le premier point. On a dû travailler également sur l'exploitation électrique de l'énergie, le stockage. Donc là aussi, c'est du carburant évidemment économisé dans ce cas-là. Et puis je parlais des pneumatiques tout à l'heure. Effectivement, Lucas a évoqué cet aileron avant parce que on ne parvenait, semble-t-il, pas tout à fait à mettre les pneus avant en température chez Mercedes, alors qu'on y parvenait, semble-t-il, mieux chez Ferrari. Donc on sait que le créneau d'exploitation des pneumatiques est extrêmement serré. C'est de l'ordre de 5 degrés, autour de 110 degrés. Donc c'est pour dire qu'il faut rester dans cette phase-là. Donc ça, c'est un aspect qui n'est pas évident, d'autant qu'on a réduit justement la température de préchauffe de ces pneumatiques. C'est un peu compliqué, un peu technique, mais on les préchauffe moins les pneumatiques avant que ça n'était le cas avant.
Les pneumatiques arrière. Au lieu de 100, ouais, c'est ça.
Voilà, exactement, Lucas. Tu as raison.
Dans un instant, Lucas, Jean-Luc, on continue de débriefer cette semaine d'essai à Barcelone. Vous entendrez Pierre Gasly, le nouveau pilote Red Bull. D'abord, c'est la mi-temps au rugby, 18e journée de Top 14, mi-temps entre Perpignan et le RC Toulon. Julien Landry.
Allez, Toulonnais qui se sont réveillés sur les dernières minutes avec deux essais coup sur coup signé Liam Messa, mais Joshua Tuisova sur une interception alors que les Catalans étaient tout proches d'aller marquer un essai. Et voilà les hommes de Patrice Collazo qui mènent 17 à 8 à la mi-temps ici à Aimé Giral.
Merci Julien, à tout à l'heure pour la seconde période. On a évoqué, Lucas, une nouvelle coqueluche du paddock, c'est Charles Leclerc chez Ferrari. Est-ce qu'on peut en dire autant de Pierre Gasly chez Red Bull? Est-ce que lui aussi était une des attractions de cette semaine barcelonaise?
Il l'a été un petit peu à ses dépens, quoi, parce qu'il a cassé deux voitures en 4 jours, donc forcément les projecteurs ont été braqués sur lui, mais bon ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais moins que Leclerc. Red Bull, on peut dire ce qu'on veut. Red Bull et même Mercedes, on peut dire ce qu'on veut, mais ça n'arrive pas à la cheville de Ferrari. Faut se rendre compte ce qu'est Ferrari en Formule 1. Maintenant, oui, on lui a beaucoup parlé de sa rivalité avec Max Verstappen et notamment de ses ambitions, puisqu'il passe d'une écurie de milieu de grille où il peut espérer, où il pouvait espérer dans le meilleur cas des points, comme à Bahreïn par exemple, où il a terminé quatrième, à une écurie où s'il ne fait pas podium, ce sera une déception.
Écoutez-le justement, Pierre Gasly, sur ses ambitions, à ton micro, Lucas.
Continuer mon développement en tant que pilote. pilote, continuer à prendre de l'expérience. Je me retrouve chez Red Bull grâce au travail que j'ai pu faire sur les dernières saisons dans les catégories inférieures et chez Toro Rosso. Et c'est une écurie avec 4 titres de champion du monde, un nombre de victoires incroyable avec des personnes comme des ingénieurs comme Adrien Newey, Guillaume Roclin, enfin des ingénieurs vraiment excellents. Et pour moi, continuer d'apprendre au début de ma carrière en Formule 1, c'est juste une opportunité extraordinaire. Donc c'est plus continuer de me développer. Après, je sais qu'en faisant mon travail, moi, de l'intérieur, les résultats viendront. On verra bien où est-ce que ça nous place au classement.
Lucas. Un élément important quand même, c'est qu'on sent que Pierre Gasly a rejoint l'écurie mère, puisque son discours est quand même beaucoup beaucoup plus lisse que lorsqu'il était chez Toro Rosso. Je l'ai relancé plusieurs fois, je lui ai même dit, Pierre, tu es en train de me rouler, t'essayes de me tromper, tu veux pas me dire. Et bon, j'ai pas réussi à avoir, en tout cas en on, ses réelles ambitions. Mais on sent que la communication de Red Bull influe son discours.
Jean-Luc, qu'est-ce qu'il doit viser Pierre Gasly cette saison à ton avis?
Lucas l'a évoqué et puis il l'a dit lui-même. Bon, des podiums, ça c'est une évidence. Tout va dépendre évidemment du niveau réel de compétitivité de la monoplace. Pour le moment, ils sont en retrait, mais on rappelle que la performance qui a été signée par Verstappen, une 17-709, qui est assez loin, hein, après d'une seconde et demie des hommes les plus rapides de Vettel et d'Hamilton, c'était avec les pneumatiques C3. Il va falloir s'y faire, hein. Donc au-dessus, il y a les C4 et les C5. Et Dixit Ferrari, ça représente entre 5 et 6 dixièmes par catégorie. Donc en clair, il y a environ une seconde deux de performance uniquement dans les pneus, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc Red Bull est beaucoup moins loin qu'il n'y paraît. Donc si la Red Bull est effectivement un moteur Honda, hein, on le rappelle, Honda qui a été très fiable, puisqu'on a pu aligner des tours tant chez Red Bull que chez Toro Rosso, eh bien je pense que Pierre est tout à fait capable de faire des podiums. Maintenant, il a lui aussi une référence absolue. C'est quand même un garçon dont on dit évidemment qu'il a largement le talent pour être champion du monde, Max Verstappen. Même s'ils s'entendent bien et se connaissent depuis longtemps, ça va être très clair. On va voir combien de temps ils vont bien s'entendre. Et on aura un petit peu, on aura un petit peu le niveau de performance de Pierre Gasly chez Red Bull.
En général, on s'entend pas bien longtemps avec Max Verstappen, hein, quand on est son
équipe. Sauf Daniel Ricciardo.
Sauf Daniel Ricciardo.
Qui, franchement, est resté digne, alors que, Red Bull ne s'est pas forcément toujours très bien comporté avec lui.
Tu as abordé rapidement, Lucas, les deux sorties de piste dont a été coupable Pierre Gasly cette semaine à Barcelone. Est-ce que ça peut avoir son importance, ça, Jean-Luc, pour le début de saison, de partir à la faute, dès les premiers tours?
Objectivement, je ne pense pas. La première sortie était sans conséquences importantes. Malheureusement, la deuxième était plus violente. D'ailleurs, bon, pour l'avoir observé, moi aussi, j'avoue que il a tout pris sur lui. Il a raison. Il y a une petite erreur de trajectoire à l'entrée de cette courbe très rapide où il met la roue arrière légèrement à l'extérieur. Moi, j'ai sincèrement pensé qu'il y avait eu un tout petit problème également mécanique. Qu'il avait conduit à s'élargir. Mais il a tout pris pour lui. C'est très bien. En revanche, malheureusement, il a endommagé la monoplace à l'arrière et à l'avant. Il a tapé assez fort. On l'a d'ailleurs conduit au service médical pour un petit check-up. Il a dit lui-même qu'il n'avait jamais été autant secoué dans un accident en sport automobile. Donc malheureusement, ça a hypothéqué les essais de Verstappen, qui ne l'a pas trop chargé non plus. Bon, il part avec un tout petit moins, je dirais ça comme ça.
Un autre Français sur la grille, mais qui lui ne se battra sans doute ni pour des victoires, ni pour des podiums. Ce Français, c'est Romain Grosjean, qui a re-signé chez Haas, écurie américaine. On en parle dans un instant, mais d'abord écoutez-le évoquer justement sa frustration de ne pas pouvoir être aux avant-postes. À ton micro, Lucas.
On ne sait jamais ce qui peut se passer sur une course. Il faut toujours être prêt à saisir une opportunité qui arrive. Après, c'est sûr qu'il y a une énorme frustration dans le sport. Il n'y a aucune équité sportive en fait en Formule 1, puisque vous avez aucune chance de battre ceux qui ont une meilleure voiture que vous. Donc ça, c'est le côté vraiment frustrant du sport. Après, oui, je vous cache pas que j'aimerais qu'on ait tous les mêmes armes pour pouvoir aller se battre et essayer d'être le meilleur sur un week-end et puis peut-être se faire battre une autre fois, mais après revenir, etc. Mais ça sera pour le moment pas le cas en Formule 1. Donc on sait que ça fait partie du métier. Après, rouler une voiture de Formule 1, ça reste génial. Je pense qu'à partir du moment où on a extrait le maximum de son véhicule sur une qualif ou sur une course, on peut être fier et heureux de ce qu'on a fait.
Il n'y a aucune équité sportive dans la Formule 1. Alors, c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé, nous, ici, dans Motors. Mais c'est rare, Jean-Luc, de voir un pilote l'exprimer, un pilote en activité, l'exprimer de manière aussi frontale.
C'est vrai, de toute façon le pilote, lui, il faut bien qu'il se défende entre guillemets. Il a raison sur tous les points, bien sûr, Romain, je vais pas remettre sa parole en doute. Maintenant, ce qu'on constate aussi toujours à terme, c'est qu'évidemment les meilleurs pilotes terminent dans les meilleures équipes, hein. Ça, c'est pas nouveau en Formule 1 non plus, c'est-à-dire que les meilleurs ont le meilleur matériel. Alors bien sûr, quand on se bat et il se bat bien dans le milieu du paquet, quand on rentre dans les points, on est content. Quand parfois on s'approche un peu des podiums, on est encore plus content. On sait que les liens entre l'équipe A et l'équipe Ferrari Ferrari sont très étroits. Maintenant, attention, je pense que ce qui est non dit, et j'espère que Lucas sera d'accord avec moi, c'est que les liens entre Alfa Romeo, maintenant mené par Fred Vasseur, avec un Kimi Raikkonen, qui a quand même été champion du monde chez Ferrari, et la Scuderia Ferrari, vont être plus étroits que jamais. Est-ce que ce sera au détriment de Haas? Ça, on le verra à l'avenir, mais on sait que la motorisation et tout l'arrière de la machine est similaire, et je pense que les mieux servis, à l'évidence, ça va être du côté d'Alfa Romeo. Hein.
Évidemment, bien sûr. Il faut remettre les choses dans son contexte. Hein. Haas est une toute petite écurie. Hein. Il y a deux fois moins de personnes que l'écurie qui compte le moins de salariés en Formule 1. Alors, bénéficie de l'aide, bien évidemment, de Ferrari, mais il y a un moment, quand vous voulez avoir de grandes ambitions, il faut aussi mettre des moyens, et j'ai envie de dire, surtout en Formule 1. Donc, il va arriver un moment où ça posera problème, justement, ce manque de moyens maintenant. Qu'est-ce que veut faire Haas? Est-ce que Haas veut juste figurer dans le milieu du peloton et puis marquer des points de temps en temps? Ou est-ce que Haas a pour ambition de se rapprocher des leaders, auquel cas il faudra mettre la main à la poche? Pour l'instant, l'écurie américaine est relativement jeune en F1, puisque là, elle va entamer sa quatrième année dans la discipline reine du sport automobile, avec des bons résultats, il faut le dire. Peut-être encore une bonne voiture cette année. En tout cas, c'est ce que Romain Grosjean nous disait. Elle est bien née. Maintenant, c'est sûr qu'un jour, il faudra mettre plus d'argent sur la table pour aller décrocher des podiums.
Un mot, Jean-Luc, de l'écurie française du paddock Renault, qui s'est montré quand même relativement en difficulté sur ses deux semaines d'essai à Barcelone. Et d'ailleurs, Daniel Ricciardo ne s'en est pas caché. Il a dit lui-même que l'écart qui séparait Renault des trois écuries de tête serait difficile à combler.
Et tu as raison, Louis, c'est clair que quand on s'appelle Daniel Ricciardo et qu'on vient de chez Red Bull et qu'on a gagné les Grands Prix, encore la saison dernière, bah évidemment, on a bien compris que chez Renault, on gagnerait vraisemblablement pas cette année, hormis un concours de circonstances exceptionnelles. Maintenant, Renault s'appuie sur sa quatrième position au classement général du championnat du monde constructeur l'an dernier. Ça va être très, 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 très difficile de faire mieux. Ça va dépendre du moteur Honda. Tu vois, je vais y aller crûment, ouais, parce que le châssis Red Bull, on sait qu'il est super bon. Bah, si le moteur Honda est aussi performant que le moteur Renault est aussi fiable, et ben clairement Red Bull sera devant. Voilà la réponse, on l'a là. Donc je pense qu'effectivement du côté de Renault, on va essayer de se rapprocher des trois gros. Est-ce qu'on parviendra à le faire et dans quelle proportion? Même si l'équipe se renforce, hein, Cyril Abitbol il travaille, les gens de Viry-Châtillon qu'on salue affectueusement parce que je sais qu'ils écoutent beaucoup Motors, c'est bien, ils travaillent également. Maintenant, tu sais, il y a des chiffres qui commencent à circuler. Je pense que Lucas les a entendus. C'est que Mercedes, tenez-vous bien, a mis entre 4 fois et 5 fois plus de moyens que les autres constructeurs lorsqu'il a fallu travailler sur ce nouveau moteur imposé en 2014. Donc évidemment, la différence, eh ben, elle est toujours là, le gain il est là.
Lucas, oui, bien sûr, évidemment, mais c'est la raison pour laquelle ils ont gagné 74 des 100 courses disputées depuis l'avènement de l'ère turbo-hybride. Il y a un moment, quand vous voulez gagner, il faut aussi mettre des moyens, surtout sur des moteurs aussi compliqués.
Voilà, vous savez tout, les amis, de ces essais de Barcelone, le premier Grand Prix de la saison. C'est dans 2 semaines, Grand Prix d'Australie. Lucas Vinoy aura la chance d'y être à Melbourne pour vous le commenter. Jean-Luc, Adrien Tambay seront là également. Ça sera à suivre en direct, en intégralité sur RMC dès 7h10 dans 2 semaines. Et nous, dans un instant, on se retrouve dans Motors pour parler d'un autre championnat qui va reprendre, c'est celui de MotoGP, premier Grand Prix dimanche prochain au Qatar. Jean-Claude Augrel, l'ancien pilote, sera avec nous pour en parler. À tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h27 sur RMC avec Jean-Luc Roy, avec Lucas Vinoy. Motors se poursuit en direct, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un quart d'heure, Radio Paddock, vous saurez toute cette semaine de sport mécanique, mais d'abord, la moto.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Encore un championnat sur le seuil de la reprise. La F1, ça sera dans 2 semaines, on en a longuement parlé. La moto, dans 1 semaine, Grand Prix du Qatar, dimanche prochain à 19h. Pour en parler, on sera dans un instant avec l'ancien pilote Jean-Claude Augrel. D'abord Jean-Luc, de la même manière qu'il y avait des essais en F1, il y a eu des essais en moto sur le circuit qatari où aura lieu le premier Grand Prix la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils ont donné ces essais, Jean-Luc?
Ah, écoute, c'est fabuleux, comme toujours à moto. Tiens-toi bien, tu te tiens bien, j'espère.
Je suis très solide sur mes appuis.
Bon, 15 pilotes en 1 seconde. Wow. C'est pas fabuleux? Eh oui. Wow. Bon, le plus rapide, ça a été Maverick Vignales, si on combine effectivement tous les résultats. Mais à 2 dixièmes environ, tu as un certain, et on va évidemment beaucoup en parler avec Jean-Claude Augrel dans un instant, un certain Fabio Quartararo. Eh oui, le pilote français qui avait été si brillant pour ses débuts en Grand Prix en Moto 3, ben, il a l'air d'être là, hein, et pas qu'un peu en MotoGP. Donc, il y a un mélange de marques, il y a un regain de forme de la part de Yamaha, puisque Vinales et Quartararo pilotent des Yamaha, et c'est une Yamaha privée, on va dire, pour Quartararo. Ensuite, c'est la surprise, c'est une Suzuki, celle de Rins, qui est en troisième position, devant Marquez, quatrième, avec la Honda, qui relève, on le sait, de blessures et d'opérations. Valentino Rossi est encore là, avec une Yamaha, il est cinquième. Et puis ensuite, encore une Honda, celle de Lorenzo, lui aussi, qui relève de blessures. Et tu vas me dire, et les Ducati? Ben, les Ducati, elles sont pas très loin, elles sont à 6 et 7 dixièmes, mais elles sont seulement pour le moment du côté de la 9e, 10e place pour Petrucci et 11e pour Miller. Donc ça veut dire que ces séances d'essai au Qatar, sur le circuit sur lequel va se dérouler le premier Grand Prix, tu l'évoquais, qui est un Grand Prix nocturne, hein, il faut le dire, bah, ces Grands Prix nous ont mis plus que l'eau à la bouche.
Pour en parler, Jean-Luc, on accueille ton invité, l'ancien pilote, et surtout le grand habitué de Motors. Bonjour Jean-Claude Augrel.
Bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous. Mais nous aussi, on est ravis de vous avoir comme à chaque fois. Jean-Claude, on a parlé des résultats de ces essais, de la sublime performance de Fabio Quartararo. Il vous a surpris, cette performance-là?
Ah, alors, un grand cocorico. Je suis ravi, je suis aux anges. Alors, il faut quand même se souvenir que ce circuit, quand même, l'année dernière, la pole position avait été réalisée par Johann Zarco sur une Yamaha. Quand même. Donc c'est un circuit qui réussit bien aux Français, visiblement. Et elle m'a surpris. Alors elle m'aurait surpris il y a 3 mois, oui, parce que franchement, encore une fois, on l'a déjà évoqué avec Jean-Luc, mais passer d'une moto de 120 chevaux à une moto de près de 300 chevaux, c'est pas simple. Mais là, au fur et à mesure des essais, on voit qu'il se place de mieux en mieux. Il va presque devenir un habitué du top 5.
Salut Jean-Claude, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Tiens d'ailleurs une petite anecdote, mais qui est pas tout à fait gratuite. Évidemment ton talent n'est pas à remettre en cause, mais je sais que tu vas prendre le départ d'une course dans moins d'une heure. C'est bien ça? T'es sur un circuit là?
Exactement, je suis sur le circuit du Luc en Provence et une course d'endurance de 3 heures là avec des petites 125, mais ça m'amuse beaucoup de rouler avec ça, avec des 600, avec des 1000. Et là en l'occurrence, j'ai une course d'endurance de 3 heures en catégorie 15 chevaux où on est deux pilotes et je vais beaucoup m'amuser, d'autant plus que c'est sous un soleil radieux.
Et avec des gamins de 15-16 ans, et c'est tout à ton honneur. T'es un tout petit peu plus âgé, pas beaucoup, hein.
À peine. Nous avons le même âge. On va donc garder ça secret, Jean-Luc.
Bah, on va garder ça secret. Puis en plus, ma dernière course de moto, c'est avec toi que je l'ai faite, Thomas. Bon, allez, on arrête dans les vieux souvenirs.
Oui, merci les Jean-Claude. Anciens combattants, là. Allez, le présent, c'est... les gars.
Allez, on y va. Jean-Claude, la surprise, évidemment, pour nous Français, on va insister, hein, c'est Quartararo. On l'a vu en difficulté lors de sa première saison en Moto 2. Il était un petit peu mieux l'an dernier. Il a fait quand même quelques beaux résultats. Et on a l'impression que là, il a trouvé chaussure à son pied avec la Yamaha, tu l'as rappelé, qui est performante au Qatar, mais aussi pour son gabarit, parce qu'il est grand, Fabio, et on a l'impression qu'il était un petit peu engoncé dans les machines de catégorie inférieure.
C'est cela. Là, on a vraiment l'impression qu'il a trouvé la catégorie de moto qui lui convient. Il faut quand même rappeler qu'il a gagné 2 fois le championnat d'Espagne en moto 3, hein, donc avec des toutes petites motos. Donc il arrivait quand même à caser sa grande carcasse dessus. Mais là, visiblement, avec une moto GP, il est très très bien. Hein. Franchement, là, je suis surpris. Enfin, j'étais surpris parce que je le deviens de moins en moins puisqu'il réitère ses performances à chaque sortie maintenant.
Eh oui. Alors la surprise aussi, ce sont les Yamaha. On l'a dit, Lucas l'a évoqué. Les Yamaha qui étaient un petit peu nulle part l'an dernier, hein, qui avaient du mal à figurer aux avant-postes, à gagner les grands prix, puisque Valentino Rossi n'y est pas parvenu, à la différence de Vinales qui ne l'a fait qu'une fois. Alors tu disais sur ce tracé, bon, qui est particulier, on sait qu'on roule la nuit et à la nuit tombante. D'ailleurs, par parenthèse, Jean-Claude, les pilotes avaient demandé à ce qu'on avance le départ d'une heure. Je crois que pour le moment, c'est pas acté, hein. Donc on va partir sur une piste qui va être un peu plus froide que d'habitude.
C'est cela. Alors moi hier j'ai parlé avec une personne qui était là-bas au Qatar qui m'a relaté un peu comment ça s'était passé. Effectivement, alors déjà les essais étaient plus tôt que l'année dernière, donc il faisait un peu plus froid et c'est Lorenzo qui a demandé à ce que le départ soit avancé parce que la nuit tombée, le vent tombe, ça c'est la bonne chose, mais par contre il y a du froid et de l'humidité. Et là il y a eu énormément de pilotes qui sont tombés quand même le dernier jour. Il y a beaucoup de pilotes. Il y avait plus de pilotes par terre que de pilotes sur les motos. Dû au froid, dû à un peu l'humidité. Il faut savoir que la personne avec qui je parlais, c'est quelqu'un qui s'occupe sur tous les grands prix des casques de 3 pilotes. En l'occurrence, on ne va pas citer la marque, mais c'est Zarco, Lorenzo, Et Oliveira, avec ça on saura quelle est la marque, mais oui, il était là-bas sur les circuits, il est sur tous les grands prix, il analyse, ça lui permet de après on débrief, il parle avec moi, et il me disait le problème c'est que la piste est froide et que effectivement il souhaite que l'heure de départ soit avancée. Alors après malheureusement il y a évidemment tout un tas d'éléments qui font que rien n'est sûr.
Jean-Claude Augrel est l'invité de Motors en direct sur RMC, il est 13h34, Jean-Luc.
Oui, on continue, Jean-Claude, à évoquer les pilotes, on vient de le dire longtemps avec Fabio Quartararo. Tiens, bah peut-être si tu veux, on va, j'ose dire, évacuer le cas Zarco, tu viens d'en parler. Johan, qui était, tu l'as dit, qui a signé la pole l'an dernier, qui a fait une saison absolument magnifique hein, au sein de cette équipe Tech 3 Yamaha, il a fait un pari audacieux, il a quitté cette équipe privée pour une équipe d'usine, l'équipe KTM, on savait que ça allait être difficile. Est-ce que c'est à ce point-là, Jean-Claude, parce qu'il ne signe que le 19e temps, Johan Zarco, et jamais il n'a été dans le coup depuis le début de ses séances?
Ah, c'est un Everest, c'est une montagne. Il s'est donné un pari extrêmement difficile. Là, s'il y arrive, franchement, il n'en sera que plus glorieux. Mais c'est vrai que c'est difficile. Après, regardez Paul Espargaro, la KTM, c'est sa deuxième saison. Il commence à la placer dans le top 10. Ça peut marcher. Ouais.
Bon, il y a du travail de mise au point. On sait que Johan, il est très pointilleux, bah, comme beaucoup de pilotes, évidemment, notamment sur le train avant, hein, je crois, Jean-Claude. Tant qu'il n'a pas confiance dans son train avant, dans l'adhérence du pneu avant, il peut pas se donner à fond. Ça doit être le cas, à ton avis?
Ah oui, clairement. Mais alors, évidemment, il faut énormément de confiance pour piloter une moto de cette puissance. La vitesse d'entrée en virage est absolument phénoménale. Vu la taille d'un pneu avant, la vitesse d'entrée en virage est absolument phénoménale. Donc, si vous n'avez pas confiance, forcément, il n'y a pas grand-chose. Hein. Chaque fois, encore une fois, tu le disais tout à l'heure, Jean-Luc, il y a 10 pilotes dans la même seconde. C'est rien. Mais ce tout petit truc fait qu'on se retrouve 10e, 12e, 15e, voire 17e.
Alors, on va garder la Honda et Marc Marquez pour la bonne bouche, si tu veux bien, et puis Ducati, évidemment, pour parler de Suzuki, Jean-Claude, avec Alex Rins, le pilote espagnol, au troisième rang. Tu t'attendais à voir les Suzuki aussi bien placés?
Alors, oui, elles progressent. Hein, elles progressent quand même pas mal, les Suzuki. Même l'année dernière, hein, Rins a fait quelques belles courses. Là, en plus, ils ont fait le pari de la jeunesse, parce que leurs deux pilotes sont vraiment des tout nouveaux. Enfin, pas Rins, ça va être sa deuxième saison, mais ils ont fait le pari de la jeunesse. A priori, ils travaillent d'arrache-pied. Oui. Leurs motos vont de mieux en mieux. Ça pourrait être effectivement une des révélations de ce début de saison.
Alors, on en vient évidemment à Honda, c'est le gros morceau avec Marc Marquez. Alors, on rappelle qu'il a subi une opération à l'épaule gauche qui était blessée depuis longtemps, qu'il faisait souffrir. Et les suites de cette opération sont un peu plus longues que prévues. On l'a pas senti, même si, attends, il signe quand même le quatrième temps, hein, à un peu plus de 4 dixièmes de Vinales. On l'a pas senti complètement à l'attaque absolue. Tu as confiance dans la Honda et dans Marquez, Jean-Claude?
Alors j'ai confiance dans les trois, la Honda, ouais. Marquez et Lorenzo.
Ouais, je vois.
Parce que là ils ont vraiment un duo de pilotes énorme. Honda, ben on va pas répéter. Hein. Honda depuis très longtemps, c'est une écurie qui est toujours au top. Oui, j'ai totale confiance. C'était des essais. Marquez était très prudent. Il avait pas envie de se faire mal. Il est pas tout à fait rétabli. Mais je crois qu'on peut franchement lui faire confiance. Et puis c'est un guerrier, Marquez. Hein. Cela dit, les deux, hein, parce que Lorenzo aussi. Mais c'est un guerrier, Marquez. Évidemment, il va pas lâcher l'affaire. Et puis il est pas si loin que ça quand même.
Ah non, bah il est pas loin du tout, 4 dixièmes, hein, je le disais, puis il est au quatrième rang. Alors tu parlais de Lorenzo, alors au début il a été très timide parce que lui, il ressort aussi de blessure, il s'est cassé le scaphoïde, on le rappelle, en essai privé, hein, en maintenant sa condition physique, bon ça fait partie du jeu, même pas sur une piste de vitesse d'ailleurs, mais il revient sixième temps, là aussi à moins de 5 centièmes de Marquez, on dirait que ça va le faire, et ça va le faire extrêmement rapidement pour Lorenzo chez Honda, Jean-Claude.
Ah, ça va être très intéressant, hein, parce que franchement, moi, je mets Marquez un ton au-dessus de tout le monde. On en a déjà parlé ensemble, hein, sur cette antenne. Je mets Marquez un ton au-dessus de tout le monde. Et là, Lorenzo, qui est vraiment un métronome, on en a parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines, qui est vraiment un métronome, qui est un pilote archi propre, un style de conduite différent. C'est beaucoup moins d'attaque à outrance que Marquez, mais les deux vont très très vite. Et ça va être extrêmement intéressant. Moi, au début, je pensais franchement que Marquez serait le plus vite. Et là, vu les temps de Lorenzo et vu l'adaptation rapide de Lorenzo à la Honda, ça va vraiment être intéressant. Là, je crois qu'on se prépare une saison. Vu toutes les marques devant, ça va être vivement dimanche prochain.
Tu as raison.
J'ai déjà entendu ça quelque part.
Oui. Un mot de Valentino Rossi pour dire qu'il est cinquième. Il est pas loin du tout, même s'il est pas devant, mais il est qu'à 4 dixièmes de Vignales. Lui aussi, on ne sait qu'en essai privé, il est pas rapide. Alors, on parle de Ducati. Évidemment, Ducati, un tout petit peu en retrait, mais qui avait été très rapide à Sepang. On le rappelle quand même avec Petrucci, qui avait été l'homme le plus rapide. Jean-Claude, c'est conjoncturel. Là, c'est juste que, au Qatar, bah, peut-être justement, la température des pneus n'était pas en faveur des Ducati.
Alors, il y a la température des pneus, et puis il y a la configuration même de la moto. C'est-à-dire que là, il y a moins de ligne droite, il y a moins la puissance du moteur Ducati, qui n'est plus à présenter maintenant, hein. C'est sûr que dès qu'il y a une ligne droite un peu longue, la Ducati est devant. Donc, c'est pour l'instant, c'est juste conjoncturel. Ce circuit-là n'est pas obligatoirement le meilleur pour les Ducati. Mais il y en aura tellement d'autres pendant toute la saison.
Jean-Claude Ogrel, dernière question pour vous. Dimanche prochain, c'est donc le premier Grand Prix de la saison au Qatar. Qui va le remporter?
C'est dur.
Allez, bon courage.
Oui.
Ah, tu as 30 secondes.
Oui, voilà. Moi je mettrai une petite pièce sur Vinales, parce que la Yamaha est très à l'aise sur ce circuit. Rossi pas loin parce que c'est quand même pas un pilote d'essai, mais par contre c'est un vrai pilote de course. Allez, moi je dirais Vinales pour l'instant, parce que les deux pilotes Honda physiquement risquent d'être un peu justes sur la durée du Grand Prix.
C'est noté.
Je dis Vinales.
C'est noté. On vous le ressortira quand vous reviendrez dans Motor. C'est prévu. Merci beaucoup Jean-Claude Ogrel d'avoir été avec nous. Et à très bientôt.
Bon dimanche à tous.
À très bientôt sur
RMC.
Salut Jean-Claude,
merci.
Le Grand Prix du Qatar, c'est donc dimanche prochain à 19h.
Tu veux pas mon pronostic alors, Louis?
Ah, mais toi, je te le demanderai dimanche prochain. Puisqu'on sera ensemble dimanche prochain dans Motors avant le Grand Prix.
Oui,
donc
c'est bien.
Donc t'as encore une semaine pour potasser.
Bon, bah, je vais sortir, tu vas voir. Je vais sortir quelque chose de ma botte secrète.
Excellent. Donc dimanche prochain, 19h, Grand Prix du Qatar, ça sera à suivre en direct sur RMC. C'est reparti au rugby, Julien Landry. 18e journée de top 14 entre Perpignan et Toulon.
Ouais, il est reparti depuis 9 minutes, Louis. Le score n'a pas évolué. Toujours 17-8 en faveur des Toulonnais, mais les Catalans qui sont à l'attaque et qui sont dans la moitié de terrain depuis le début de la deuxième période et qui ont eu à l'instant une pénalité non convertie par Jonathan Bousquet. Ils essayent de revenir petit à petit, dans ce match. 17-8 pour les Toulonnais, repartis depuis 10 minutes.
À tout à l'heure, Julien. 13h40 sur RMC. Motors revient tout de suite pour Radio Paddock. Ne bougez pas.
RMC, 13h-14h. Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
13h41 sur RMC. Motors, en direct avec Jean-Luc Roy, avec Lucas Villoir. On est ensemble jusqu'à 14h. On se retrouve ensuite Christophe Cessieux et l'Intégral Sport. En direct en ce début d'après-midi, c'est du rugby. La suite de la 18e journée de top 14. Perpignan accueille Toulon sous les yeux de Julien Landry.
Ouais, les Catalans qui sont en train de pilonner la ligne d'essai toulonnaise. Ils n'arrivent pas à marquer l'essai. Ils sont toujours menés. On vous rappelle le score 17-8 en faveur des Toulonnais. Et on est reparti depuis 12 minutes dans cette deuxième période.
Et je vous rappelle que cette 18e journée se conclura cet après-midi à 16h50 par le classique du rugby français. Le Stade français accueille le Stade toulousain. Ça sera évidemment à suivre en direct sur RMC. Mais d'abord, avant tout, c'est l'heure de Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Rebonjour Lucas Vinoy.
Rebonjour Louis. Rebonjour à tous.
Jean-Luc Roy, tu es toujours là. On parlait de MotoGP il y a quelques instants. Il y avait également la semaine dernière des tests en Moto 2 et Moto 3 au Qatar, Jean-Luc.
Oui, effectivement, et qui sont très importants et qui se poursuivent d'ailleurs. Il reste une journée. Alors, ce qu'on peut dire,
c'est que
vrai, à l'issue voilà des essais combinés des premiers jours en Moto 2. Alors malheureusement, on rappelle qu'on n'a pas pour le moment de pilote français présent en Moto 2 et Moto 3. La Fédération française en est bien consciente et on a recréé, j'allais dire, l'équipe de France, hein, Jacques Boll le président, avec Alain Bronec qui a longtemps officié avec son propre team en MotoGP. Il y aura Thierry Vandenbosch également pour la préparation physique et on a carrément misé sur des très jeunes pilotes, tiens-toi bien, de 16 et 15 ans pour les amener en Moto 3 d'abord et peut-être un jour en MotoGP. Donc ça, c'est pour les Français. En attendant, c'est Sam Lowes qui a dominé avec sa Calex les essais Moto 2. Une 58-824. Alors là aussi, c'est à rapprocher des temps du MotoGP, mais on est à 5 secondes environ, ce qui est absolument remarquable. Et puis le nom du deuxième va vous rappeler quelque chose. Il s'appelle Rémi Gardner. Et oui, c'est le fils du champion du monde Wayne Gardner, qui lui-même est en moto, donc en Moto 2, qui a signé le deuxième temps à seulement 55 millièmes de Lowes avec une Calex. Et puis ensuite, on trouve évidemment beaucoup d'Espagnols. Hein. Martin, Marquez, là aussi, ça va vous rappeler quelque chose, mais c'est pas Marc, c'est Alex, son petit frère. Donc voilà pour le Moto 3 et pour le Moto 2. Bah, c'est un garçon qui est présent depuis très très longtemps, qui s'appelle Romano Fenati, au guidon d'une Honda, qui devance son équipier au sein du team Snipers. Ça ne s'invente pas. Il s'appelle Tony Arbolino. Donc deux Italiens au commandement avec des Honda devant Aaron Canet. Alors lui, c'est un Espagnol chez KTM. Et puis ensuite, Della Porta, Binder, etc. Pas de Français, je le rappelle. Et puis on s'intéresse quand même à ces catégories, bah, parce que c'est ceux qui vont évidemment accéder au MotoGP. On l'a assez dit avec Fabio Quartararo et Johan Mir notamment.
Enfin, peut-être pas Fenati, puisqu'on se rappelle de ce qu'il a fait la saison dernière. Il avait réussi en plein Grand Prix à appuyer sur le frein d'un de ses concurrents. Ça, tu te souviens, Jean-Luc, c'était une image qui s'appelait Stefano Manzi, le concurrent en question. Et c'est une des images très fortes de la saison dernière, puisqu'en pleine ligne droite, on rappelle, il avait vraiment appuyé sur le frein de la moto qui était juste à côté de lui. Et bon, c'est déjà dangereux dans les catégories inférieures, mais en MotoGP, évidemment, ça serait encore pire.
C'est du jamais vu, cette action. Mais tu vois, il a été blanchi parce que au départ, on lui avait retiré sa licence à vie. Carrément.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Et donc, finalement, réflexion faite du côté des instances fédérales. Je pense aussi du côté des pilotes, et y compris celui qui avait été la victime de cet agissement. Bon, on a réfléchi et c'était, on va dire, c'est nul, Moi, je trouve ça effectivement d'une agressivité phénoménale. Mais on va dire que c'était dans le feu de l'action. En tout cas, pour le moment, on semble avoir un peu passé les ponts.
Et les premiers Grands Prix de Moto 2 et Moto 3, ils seront juste avant le MotoGP de la semaine prochaine en levée de rideau au Qatar dimanche après-midi. On revient à la F1, Lucas Vinoy, avec des nouvelles des accords Concorde. C'est un peu obscur, c'est un peu touffu, les accords Concorde, mais c'est très important dans le monde de la Formule 1. C'est ce qui régit la Formule 1.
Oui, c'est ça. C'est depuis 1981. C'est un document légal, en fait, qui dit que tout simplement les contours de la Formule 1, le règlement, et ils sont renouvelés à intervalles réguliers. Pourquoi on en parle? C'est que ceux de 2021 n'ont toujours pas été signés. On attend un grand chamboulement au niveau de la réglementation, mais on n'a toujours pas d'infos par rapport à ça. Et Cescare nous a affirmé en début de mois que ce serait dans les justement prochains mois. Donc comme je sais que Jean-Luc, c'est un sujet qui le passionne et qu'il trouve que c'est scandaleux que rien ne soit signé maintenant, j'aime bien à chaque fois, chaque dimanche dans Moteur, se faire parler.
Tu remets une thune dans le bastringue.
Exactement. Alors Jean-Luc, vas-y, c'est parti.
Bon, pareil, j'ai deux heures. Bon, écoute, en deux mots, je vais pas dire scandaleux parce que je sais que c'est difficile d'avoir une unanimité. Alors moi, la stratégie de négociation de Liberty Media, j'avoue que pour le moment, elle me laisse assez pantois. On va parler également des circuits, j'y vais carrément, tu sais, j'ai pas la langue de bois, tant pis, parce que je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que là, bon, ils cherchent l'unanimité, évidemment, des constructeurs et des écuries engagées, ils ne l'auront jamais, ça n'est pas possible. Ce sont des intérêts contradictoires entre, évidemment, Mercedes, qui domine outrageusement avec Ferrari, pas très loin, eux, ils ne veulent rien changer à la réglementation actuelle, évidemment, puisque c'est les plus forts. Entre les écuries de milieu de grille, qui, elles, font tout pour y arriver, mais les budgets sont tellement sidérants, tellement énormes aujourd'hui qu'ils n'ont aucune chance d'y parvenir. On a écouté Romain Grosjean avec l'équipe Haas tout à l'heure. Et puis les pauvres, on n'a même pas dit un mot, tu vois, tout à l'heure. Mais je sais que Lucas, comme moi et toi aussi, Louis, qui connaît bien la Formule 1, vous êtes peiné par le sort de Williams,
bien sûr,
qui est absolument dramatique. Bon, c'est évident que la Formule 1 doit, je le dis, je le répète, il faut sauver le soldat F1. Il faut tout remettre à plat. Et c'est pas du tout la tournure que ça prend, je peux vous dire. Donc là, moi, je suis plus que perplexe. On sait qu'il faudra des accords, notamment en termes de moteurs, avant la fin du mois de juin, parce qu'on rappelle quand même que c'est la saison 2021 dont on parle. C'est demain, va être dans 18 mois, et s'il n'y a pas d'accord moteur, vous savez ce qui va se passer, rien du tout. C'est-à-dire qu'on va reconduire ce moteur, pour moi, consternant, même s'il est très performant, qui va avantager les plus gros, on va rien changer, et donc la Formule 1 va continuer, malheureusement, à s'enfoncer dans une crise.
Voilà. Le début de la saison, vous le savez, c'est dans deux semaines, les écuries ont quitté Barcelone ce week-end, il s'agit maintenant, Lucas, de rallier l'Australie, et c'est un sacré défi logistique qui attendent toutes les équipes du paddock.
Et rendez-vous compte, il faut envoyer des monoplaces à l'autre bout de la planète. Donc ça se divise en plusieurs parties. Vous avez tout ce qui concerne le stand qu'il faut reconstruire à chaque fois, tout ce qui est pistolet, tout ce qui est murette aussi des stands. Tout ça, c'est parti par bateau à la mi-janvier pour rejoindre Melbourne. Par exemple, une écurie comme Renault a 5 kits de stands, donc on peut construire 5 stands stands à 5 endroits différents en même temps, puisque les temps de trajet par la mer sont très longs. Et puis la monoplace, c'est simple, elle va partir très rapidement. Elle partira jeudi d'Angleterre pour la partie châssis, et ensuite elle sera directement expédiée en Australie. Alors bien évidemment avec une escale, soit à Abu Dhabi, soit dans un autre pays des Émirats. Mais c'est une logistique complètement dingue, parce que c'est le premier Grand Prix de la saison, parce qu'au dernier moment, toutes les palettes qu'on prépare, il faut rajouter des éléments et ne rien oublier. Puisque quand vous oubliez quelque chose en France et que vous avez le Grand Prix en Australie, c'est un petit peu difficile de dire ah mince, oui, j'ai oublié quelque chose.
Mais même pour toi, si tu oublies ta brosse à dents à Paris,
voilà, en partant c'est un petit peu compliqué. Sauf que la brosse à dents, je pense pouvoir en acheter une en Australie. Alors qu'il y a des droits avant, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une logistique complètement dingue et qui est gérée notamment par la F1, puisque quand vous inscrivez en fait au championnat du monde de Formule 1, vous acceptez de gérer et de céder, de rétrocéder justement cette logistique à la F1. Donc il y a la partie, vous préparez tout, et ensuite à partir du moment où vous laissez la marchandise dans l'avion, c'est la Formule 1 qui gère ça, et vous retrouvez vos palettes devant votre stand sur le circuit.
C'est incroyable, Jean-Luc, hein, cette organisation. Ça se passe dans l'ombre, évidemment. Le grand public n'est pas forcément au courant de tout ça. Ce sont des gens qu'on ne montre pas, des petites fourmis qui travaillent exactement énormément, qu'on voit très peu, mais qui sont essentielles au bon déroulement d'une saison et au bien-vivre d'une équipe.
Ah ben c'est absolument fabuleux, parce qu'effectivement ce sont des dizaines voire même des centaines de tonnes, hein, au total qu'il faut transporter à l'autre bout du monde. Et parfois quand ce sont des grands prix back to back, comme on dit, d'une semaine à l'autre, eh bien en quelques jours seulement, quelques heures presque, il faut démonter l'ensemble d'un stand dont parlait Lucas il y a un instant, puis reconstruire de l'autre côté. Alors c'est un peu plus facile ou moins difficile, on va dire ça comme ça, en Europe, parce qu'il y a les énormes motorhomes, hein, qui par la route évidemment à peine l'arrivée du grand prix donné, eh bien on commence à remballer et puis on va mettre le cap sur le Grand Prix suivant. En revanche, quand c'est à distance, et là, je vous donne juste les 3-4 premiers, on va comprendre, hein. Melbourne le 17 mars, Shakir donc à Bahreïn le 31 mars, Shanghai, évidemment en Chine, le 14 avril, et l'Azerbaïdjan le 28 avril. On comprend bien que le grand circus de la Formule 1 va devoir se déplacer et faire le grand écart. Et je rappelle quand même, parce qu'il faut rendre à Bernie ce qui est à Bernie, c'est Bernie Ecclestone, hein, qui avait mis tout ça en place, et ça fonctionne pas si mal. On s'en rend compte là aussi avec un peu de recul. C'était pas autant l'ogre qu'on a bien voulu le décrire pendant des années.
Tu parlais des chiffres hallucinants, Jean-Luc, pour ce qui est de Renault, c'est 35 tonnes de matériel qui sont déplacées sur tous les grands prix, cela sans compter l'hospitalité. Donc c'est considérable, et l'hospitalité
c'est la structure d'accueil, hein, pour ceux qui sont pas familiers des paddocks, c'est là que les journalistes rencontrent les pilotes, c'est là que les pilotes se reposent, se restaurent aussi entre les essais, les courses,
donc
etc.
C'est 5 semi-remorques pour Renault qui a une petite hospitalité, oui, quand on compare à la grosse hospitalité Mercedes, ou pire encore celle de Mercedes, parce que celle de Mercedes est carrée, donc c'est facile d'empaler
tout,
oui, voilà,
en plus fallait
assez original. Donc voilà, quand on empile toutes ces plaques, ça ne prend pas beaucoup de place. C'est 15-16 semi-remorques. Celle de McLaren qui est circulaire, qui est arrondie, alors là pour le coup c'est beaucoup plus compliqué, c'est entre 20 et 25 semi-remorques, ce qui est considérable. Mais la F1 est un spectacle incroyable, mais franchement, si vous avez l'occasion un jour d'aller sur un Grand Prix et de voir à quelle vitesse le paddock se démonte, c'est tout simplement hallucinant.
Ah bah c'est simple, à la fin du Grand Prix, on voit déjà des gens qui démontent les derniers tours de course.
Pendant le podium, même avant, lors des derniers tours de course. Ouais.
Jean-Luc, évidemment, on en a longuement parlé tout à l'heure, on en reparlera la semaine prochaine, mais d'un mot ou de deux, quelle excitation avant cette reprise de la F1 quand même.
Eh ben oui, un mot, je ne sais pas, ou alors je te fais waouh.
Ça me va.
Non, ben c'est génial. Écoute, franchement, il faut regarder tout ce qui va bien, et il y a plein de choses, les performances qui sont très proches les unes des autres, cet affrontement de toute façon Mercedes Ferrari avec un Charles Leclerc aux avant-postes à l'évidence, et puis la redistribution des cartes évidemment, Gasly chez Red Bull, que va faire le moteur Honda justement dans cette Red Bull, dans des inconnus, il y en a plein, il y a des nouveaux jeunes pilotes, on n'a pas eu le temps d'en parler. Mais il y a des Giovinazzi, des Lando Norris qui arrivent. Il y a vraiment plein de gens très excitants. Et le retour de Kubica, tiens aussi, qui le pauvre n'a pas été bien servi. Non, il y a plein d'inconnus et il y a plein de choses passionnantes en Formule 1.
Lucas, par parenthèse, quand est-ce que vont partir les pilotes en Australie? Puisque ça commence par un sacré décalage horaire. Il y a 10 heures, je crois, par rapport à notre heure.
Oui, c'est ça, ou 9 heures.
9 heures.
Ou 9 heures peut-être. 9, ça 10, dépend.
Je sais plus.
Mais tu devrais savoir, puisque tu as quand même été plusieurs fois.
C'était il y a longtemps. Quand j'étais jeune, mon ami.
Non, alors ça dépend. Certains pilotes partent s'acclimatent plutôt que d'autres. Certains s'acclimatent plus vite au décalage horaire que d'autres. Au Mexique, je me rappelle que certains pilotes étaient arrivés dès le dimanche sur place, mais c'était aussi un back-to-back avec avec les États-Unis. Là, les premiers pilotes vont arriver aussi le dimanche et le lundi pour prendre le temps de s'acclimater, non seulement à la chaleur pour ceux qui sont qui vivent en Europe. Daniel Ricciardo sera comme un poisson dans son bocal, mais pour les autres, voilà, il va falloir s'acclimater. Lewis Hamilton est à la Fashion Week ce week-end, évidemment à Paris, donc il ne partira pas dans les plus tôt, mais voilà, ça dépend et c'est aussi en fonction de la capacité de récupération et d'adaptation de tous les pilotes.
Oui, voyage dans des conditions quand même excellentes.
Les mêmes que tous les journalistes.
Oui, c'est ça. Toi, tu pars quand, Lucas ?
Je pars le 12, très exactement.
Le 12.
Le 12.
Dans ton jet, exactement. Donc 5 jours avant le Grand Prix,
mais sans escale,
bien le temps.
Moi, je vais directement en Australie.
Toi, t'auras bien le temps.
Mais toi, tu n'emmènes pas Roscoe, hein, t'emmènes pas ton chien, hein, tu fais pas comme Lewis.
Non, j'emmène mon hamster.
Oui, c'est ça. C'est déjà bien.
Ça ne nous regarde pas.
Dans deux semaines, le Grand Prix d'Australie, on vous le rappelle, hein, ce rendez-vous, vous l'entendrez, bien sûr. Mais on vous le rappelle quand même, 7h10, ce Grand Prix, dimanche 18 mars. C'est ça, en direct sur RMC. 17 mars. Lucas, on termine Radio Paddock avec un peu d'endurance.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la F1 dans la vie. C'est vrai que ça prend beaucoup de place, mais il n'y a pas que la F1. On a eu la liste des engagés aux 24 heures du Mans cette année, avec une catégorie LMP1, on le savait, hein, qui n'est pas des plus fournies, avec 8 voitures seulement, 2 Toyota, 2 Rebellion, 2 Dallara du SMP Racing notamment. Jean-Luc, je sais que ça te peine un petit peu, mais par contre, on va se consoler avec cette formidable catégorie GT, avec Porsche, avec Ford, avec BMW, avec Aston Martin, avec Ferrari, avec Corvette. Une catégorie GT qui, franchement, est incroyable.
Oui, elle est incroyable, mais tu sais, même en LMP1, LMP2, hein, d'abord, tu sais à quel point j'adore l'endurance et Le Mans en général. C'est un autre exercice, mais Le Mans, c'est vraiment un circuit absolument incroyable. Alors c'est vrai que Toyota est un peu seul avec ses deux machines, on va dire, d'usine et aux dernières réglementations qui coûtent à aligner. C'est des budgets dignes de la Formule 1, hein. C'est d'ailleurs pour ça que Porsche et Audi notamment s'en sortiraient. Bon, on est face à des équipes privées comme Rebellion pour le moment. C'est vrai que c'est pas dans la catégorie LMP1 qu'on va le plus se battre. En revanche, LMP2, oui. Là, ce sont des équipes privées qui sont engagées avec des prototypes, hein, extrêmement performants. Et puis, tu parlais du GT. Bah là, écoute, l'affiche est formidable. Quand tu commences à dire Ferrari, Chevrolet, Ford, BMW, Porsche, Aston Martin, tu te dis qu'effectivement, il y a une affiche qui est absolument formidable. Alors, on sait que la définition technique des machines en endurance, en championnat du monde d'endurance, a considérablement évolué. Là, pour le coup, ils ont fait leur révolution. On espère maintenant que les constructeurs vont s'inscrire, et ce sera à partir de 2021. Donc là aussi, c'est demain. On va peut-être avoir des machines qui vont avoir des profils totalement différents, puisqu'il faudra qu'elles soient produites dans un premier temps à 50 exemplaires et peut-être même à 100. On est en train d'affiner tout ça. Donc ce sera des voitures que l'on pourra quasiment, on va dire quasiment, acheter pour rouler sur la route. Enfin, pas toi et moi.
Hein. Oui, non, ça c'est sûr. En effet, non. Par contre, c'est vrai que c'est dommage quand on voit à quel point le WEC a été capable de faire sa mutation rapidement. Ça montre que la F1, elle, n'en est pas capable. Et c'est vrai que les éléments de comparaison sont un peu terribles quelque part.
C'est vrai, c'est exact. Tiens, un petit mot, si vous voulez, c'est dommage, on va se quitter sur une note un tout petit peu triste, mais je voudrais rendre hommage à Philippe Chariol, qui est décédé sur le circuit Paul Ricard dans la semaine, qui était un gentleman driver, qui avait fondé une marque de montres et de produits de luxe, et qui était un vrai passionné, un vrai sportsman, comme on dit aujourd'hui, et qui se faisait encore plaisir au volant. Il est mort au volant dans la ligne droite du Mistral. Voilà, donc c'est une note un peu triste, j'en suis désolé, mais je voulais lui rendre hommage parce que c'était un grand passionné.
Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. À dimanche prochain dans Motors, 13h, 14h sur RMC. Merci beaucoup Jean-Luc, merci Lucas. On te retrouve dans l'Intégral Sport.
RMC Football. Samedi à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.